Bonjour à tous et à toutes. C'est toujours une joie de se retrouver ensemble autour du Seigneur et partager sa parole, le glorifier, le louer, parce que ce sont des moments bénis. Ce sont des moments bénis en tout cas, que pour rien au monde, que chacun puisse rater ces occasions que le Seigneur nous accorde par sa grâce. Avant d'écouter sa parole, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, tu veux nous parler, Seigneur, par ta parole maintenant. Nous voulons écouter rien que ta voix. Fais silence dans nos cœurs à toute voix humaine. Et que toi seul, tu puisses nous parler. Parle maintenant, parce que nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'Évangile de Jean. Au chapitre 21 et le verset 1 à 14. Évangile de Jean, chapitre 21, le verset 1 à 14. Les 14 premiers versets. Évangile de Jean, 21, 1 à 14. Nous lisons la parole de Dieu. Le premier verset. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, le fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher » et lui dire, « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se montra sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez les filets du côté droit de la barque. » Et vous trouverez. Ils les jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples, avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était pas éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là du charbon allumé, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre montant dans la barque, et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en ait tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez, mangez !» Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain, et leur en donna, il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. C'est la parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, le dimanche passé, nous avons célébré la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute que notre Seigneur est vivant, que le Seigneur est ressuscité. Et il y a des preuves bibliques qui prouvent qu'il est vraiment ressuscité. Parce que dans le passage que nous venons de lire, c'est une autre preuve que Christ est réellement ressuscité. Parce qu'il est apparu à ses disciples. Et Le titre de notre message ce matin, Christ ressuscité apparaît à 7 disciples. Jésus-Christ ressuscité apparaît à 7 disciples. Plusieurs semaines se sont écoulées depuis que le Seigneur est ressuscité de mort. Et maintenant, les disciples sont en Galilée, comme Jésus-Christ leur avait dit dans Matthieu 26, verset 32. Et l'ange avait confirmé cette parole le premier jour de la semaine, quand les femmes étaient parties au tombeau. L'ange a confirmé cette parole dans Matthieu chapitre 28, le verset 7. Il est dit ceci, l'ange a dit aux femmes, allez dire à ses disciples que Jésus est ressuscité des morts et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le trouverez. Et dans le passage que nous venons de lire, les disciples, ces 7 disciples sont en Galilée, comme Jésus avait dit. Et la preuve de résurrection de Jésus-Christ, il y en a nombreux dans la parole de Dieu, dans la Bible. Parce qu'il est apparu plusieurs fois à de nombreuses personnes, d'abord aux femmes, le premier jour de la semaine. Il a aussi apparu aux disciples, si vous vous souvenez, il a apparu aux disciples la première fois, quand Thomas n'était pas là. Ensuite, il a encore apparu aux disciples la deuxième fois, quand Thomas était là. Et la troisième fois, Christ apparaît à 7 disciples au bord de la mer de Galilée. Et c'est le texte que nous venons de lire. C'est pour cela, au verset 14 du chapitre 21 de Jean que nous venons de lire, il est dit, au verset 14, c'était la troisième fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 6, il est dit ceci que Christ est ressuscité est apparu à plus de 500 personnes. 500 personnes, 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Donc nous ne pouvons pas avoir de doute de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible le déclare, la Bible donne de preuves. Mais dans ce passage, Jésus-Christ, en se montrant de nouveau à ses disciples, le Seigneur veut les encourager. Le Seigneur veut leur rappeler leur mission, leur vocation pour laquelle ils étaient appelés. Leur mission pour laquelle le Seigneur les avait choisis, c'est-à-dire être des pêcheurs d'hommes. C'est pour cela qu'il est apparu à ses disciples au bord de la mer de Galilée. Déjà, qu'est-ce qu'ils sont partis faire là-bas au bord de la mer de Galilée? Jésus-Christ leur a dit, attendez. Qu'est-ce qu'ils sont partis faire là-bas? Je ne voudrais pas rentrer dans les expressions françaises qui disent au bon endroit, au mauvais moment, au bon... Non, c'est pas ça, mais qu'est-ce qu'ils sont partis faire à la pêche? Qu'est-ce qu'ils sont partis faire au bord de la mer de Galilée? Jésus-Christ leur a dit, je vous précède en Galilée, allez-y là-bas, vous m'attendez, point barre. Et sont partis à la pêche. Et en méditant sur ce passage, frères et sœurs, je me suis posé cette question. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question en lisant, en méditant ce passage, parce que c'est un passage qui est connu. Je me suis dit ceci, mais pourquoi ces disciples qui ont travaillé toute la nuit, pourquoi ces disciples qui ont pêché
toute la nuit. Ses disciples, rappelons-le qu'ils étaient d'abord des pêcheurs. Ils savaient très bien ce métier. Comment ils ont pêché? Toute la nuit. Et ils n'ont rien attrapé. Ils n'ont rien pris. Ça a attiré mon attention. Je dis, mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils pouvaient trouver ne fût-ce que deux dorades et puis rentrer avec les deux dorades à la maison. Mais rien, la Bible dit rien. Toute la nuit, rien. Je me suis dit alors, il y avait un problème. Il y avait un problème. Alors, quel était le problème? Quel était le problème? D'abord, ils n'avaient aucun problème avec le bateau ou la barque qu'ils ont utilisée pour aller pêcher. Ils n'avaient pas de problème avec cette barque-là. Pourquoi? Parce que cette barque avait résisté à de nombreuses tempêtes. Ce n'était pas une nouvelle barque qu'ils ont achetée, c'était une ancienne barque. Cette barque a résisté à de nombreuses tempêtes. Cette barque avait été déjà utilisée pour attraper beaucoup de poissons par le passé. Rappelez-vous que nous sommes au bord de la mer de Galilée, et c'est au bord de la mer de Galilée aussi que Jésus-Christ avait appelé ses mêmes disciples. Et cette barque-là existait déjà. Donc il n'y avait pas de problème avec la barque. C'est probablement la même barque qui a été utilisée lors de la pêche miraculeuse, rappelez-vous. Lorsqu'ils ont attrapé une grande quantité de poissons et leur filet ne se rompait pas. Vous pouvez voir ça dans Luc chapitre 5, le verset 6 à 7. La pêche miraculeuse. Certainement, probablement, ils ont utilisé la même barque. Donc, on élimine déjà le problème de la barque. La barque était en bon état. Ce n'est pas le problème. Alors, quoi encore? Quel problème encore? Ils n'avaient pas non plus de problème avec la méthode ou la technique de pêche. Parce qu'ils étaient des pêcheurs professionnels à l'époque, avant de suivre Jésus. Ils étaient des pêcheurs professionnels. Ils savaient ce qu'il faut faire pour aller à la pêche. Et ils savaient comment pêcher. La preuve, c'est pour cela. Ils sont partis pêcher la nuit, parce qu'ils savaient la technique. Ils savaient que la nuit, avec leur expérience, l'expérience leur a appris que la nuit, c'était le moment le plus productif pour eux. C'est le moment où tu peux attraper beaucoup de poissons. Ils le savaient. Donc, côté méthode ou technique de pêche, pas de problème, on élimine. Pas de barque, pas de problème avec la barque, pas de problème avec la technique de pêche. Alors, quel problème encore? Est-ce que il y avait le problème avec la mer? Non. Il n'avait non plus pas de problème avec la mer. Parce que c'était toujours la même mer où ils allaient pêcher. C'est là où, dans Luc, Jésus a fait un grand miracle, ils ont pêché beaucoup de poissons. Rappelez-vous. Donc, ce n'était pas la mer, et c'est la même mer qui avait fourni de nombreux pêcheurs, de nombreux poissons à des pêcheurs, à beaucoup de pêcheurs. Et la même mer, aujourd'hui encore, continue à fournir des poissons. Aujourd'hui. Donc, côté la mer, pas de problème. Le problème n'était pas la mer, ni la barque. Ni la technique de pêche, ni la mer, il n'y a pas de problème. Alors, un autre élément, est-ce qu'il y avait un problème avec le temps? Parce que des fois, quand il y a la tempête, on a du mal à pêcher. Il n'y avait pas de tempête. La Bible ne le dit pas. Il n'y avait pas de tempête. La mer était calme. Alors, pourquoi ils n'ont pas attrapé de poissons? Il y a un problème quand même. Quel est le problème? Quel est ce problème? Il n'y avait aucune raison qui peut justifier leur manque de succès. Alors, c'était quoi le problème? Frères et sœurs, le problème, c'était eux-mêmes les disciples. Le problème, c'était eux-mêmes les disciples. S'ils n'ont pas attrapé de poissons cette nuit-là, la cause, le problème, c'est eux. Pas autre chose. Faut pas aller chercher ailleurs. C'est eux, les disciples, le problème. Et, frères et sœurs, la première chose que nous voulons voir, ou le premier point que nous voulons voir, méditer ensemble ce matin, le premier point, c'est l'incapacité des disciples à subvenir à leurs besoins. L'incapacité des disciples à subvenir à leurs besoins. Oui, Jésus a demandé à ses disciples de se rendre en Galilée, où il leur apparaîtra à nouveau. Et pendant qu'ils attendaient, le troisième verset nous dit, au verset 3, Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Le Seigneur a dit, attendez. Pierre dit, je vais pêcher. Pierre décide d'aller pêcher sur les lacs de Galilée. Et les autres disciples l'ont suivi. Ils étaient au bon endroit, en Galilée, mais quand ils étaient partis à la pêche, ils n'étaient plus là où Jésus-Christ voulait qu'ils puissent être. Vous êtes en Saint-Denis, on vous a dit, attendez à la mairie, vous partez jusqu'au stade. Non, on vous a dit, attendez à la mairie, restez là-bas à la mairie. Oui, ils sont partis pêcher. Ils ont oublié que leur place n'était pas dans une barque. Leur place ne se trouvait pas dans une barque. Leur place n'était pas dans un petit bateau à courir après le poisson. Car ils étaient appelés à être le pêcheur d'hommes. Et non le pêcheur de poissons. C'est ce que le Seigneur, la mission que le Seigneur leur avait confiée. Voici comment le Seigneur les avait appelés. Lisons Matthieu chapitre 4, le verset 18 à 22. Matthieu chapitre 4, le verset 18 à 22. Nous lisons la parole de Dieu. Matthieu 4, 18, 22. Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, c'est toujours la même mer, là où Jésus les a appelés. Et là où, au chapitre 21, ils sont partis pêcher. Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi. » Et je vous ferai quoi? Je vous ferai pêcheur d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent le filet et le suivirent. Dès là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela. Et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et les suivirent. Voilà, frères et sœurs, la mission que Jésus leur avait donnée. Venez, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Oui, en lisant ce passage, nous voyons que le passage de Matthieu, les disciples ont tout quitté, ils avaient tout quitté pour suivre Jésus-Christ. Vous imaginez, ils ont quitté même leur père, la barque, les filets, et ils ont suivi Jésus Christ. Mais maintenant, Christ est mort. Christ leur a dit d'attendre. Ils ont tout oublié. Ils ont fait marche arrière. Ils sont rentrés à la même mer, là où Jésus les avait appelés. Pendant 3 ans, Jésus a pris soin de leurs besoins physiques et spirituels. Ils n'avaient plus à travailler comme pêcheurs de poissons ou comme percepteurs d'impôts. Non. Ils étaient consacrés à l'œuvre du Seigneur. Ils étaient totalement pour l'œuvre du Seigneur. Mais maintenant, ils veulent reprendre le travail qu'ils avaient abandonné. Ils veulent retourner à leur ancienne vie. Mais frères et sœurs, les choses ne vont pas se passer comme ils le souhaitaient, comme ils pensaient. En allant à la pêche, Jésus ne leur reproche rien. Il ne leur fait pas de reproches. Parce que Jésus savait que les disciples pensaient avoir toute la capacité nécessaire pour dépendre de leur ancienne vie de pêcheurs afin de subvenir à leurs besoins. C'est ce qu'ils pensaient. Peut-être qu'ils étaient là, ils attendaient, Jésus n'apparaissait toujours pas. Ah oui, il faut manger, non? Il faut s'habiller, il faut faire ceci. Certainement, ils avaient des besoins. Il dit non. Comme il n'arrive toujours pas, allez, allons chercher de l'argent d'une autre manière, d'une autre façon. Reprenons notre ancienne vie. Et s'ils n'ont rien pêché toute la nuit, c'est parce que le Seigneur a voulu qu'ils prennent conscience de leur incapacité, de leur propre incapacité à subvenir à leurs besoins. Ils étaient incapables de faire quelque chose d'utile pour eux-mêmes. Parce qu'ils n'étaient pas appelés pour cela. Ils étaient appelés pour autre chose. Et le Seigneur voulait leur apprendre qu'ils devaient dépendre de lui. Et qu'il était aussi impossible pour eux de retourner à leur ancienne vie. Ils ne pouvaient plus faire marche arrière. C'est pour cela qu'ils n'ont rien attrapé toute la nuit. Le problème, ce n'était pas la barque, le problème, ce n'était pas le temps, le problème, ce n'était pas la technique de pêche, le problème, c'était eux. Eux-mêmes, parce que le Seigneur voulait leur apprendre quelque chose. Oui, Jésus les avait formés pour annoncer la bonne nouvelle, pour prêcher la parole de Dieu, pour répandre la parole de Dieu et à compter sur le Seigneur pour tous leurs besoins. Voilà ce que le Seigneur leur a enseigné. Mais ils ont oublié cela. Ils ont voulu reprendre leurs mauvaises habitudes. Dans Luc chapitre 18, le verset 28 à 30, nous lisons ceci parce que Pierre avait questionné Jésus. Il a dit, mais oui, d'accord, mais nous avons laissé nos bateaux, nos filets, tout ça, on pêche plus. Mais pourquoi? Mais écoutez ce que Jésus avait dit. Dans Luc chapitre 18, le verset 28 à 30, nous lisons la parole de Dieu. Le verset 28, Pierre avait même dit à Jésus ceci. Le verset 28, chapitre Luc 18. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus leur dit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de l'évangile, sa maison ou sa femme, ses frères ou ses parents, ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci
et dans le siècle à venir la vie éternelle.
Il le savait. Il le savait parce que Jésus leur avait dit ça. Personne ici. Donc, Christ est clair.
Mais ils ont tout oublié. Ils disent non, non, non. On reprend notre ancienne vie.
Malgré cette assurance de Jésus-Christ, Pierre dit aux autres disciples, je vais pêcher.
Et ils ont répondu, nous irons avec toi. Ils retournèrent à ce qui leur était familier, espérant recommencer leur vie d'une manière ou d'une autre. Et cette nuit-là, ils n'ont rien attrapé. Le Seigneur a permis qu'ils puissent rien attraper.
Et ne pas avoir attrapé de poisson était une grande déception pour eux. Imaginez, des pêcheurs professionnels. Mais rien. C'était une grande déception.
Frères et sœurs, Jésus-Christ était celui qui a donné l'espoir, la joie, la paix et l'amour dans leur vie. Et maintenant, Jésus n'est plus. Il est mort. Et ils regardaient tristement la mer, cette mer de Galilée, qui leur fournissait du poisson, et maintenant qui n'arrive pas à leur donner ne plus qu'un petit poisson.
Oui, Jésus manquait aux disciples,
parce qu'il n'y en a pas si longtemps, ils étaient avec lui tous les jours.
Frères et sœurs, nous, comme les disciples, nous devons réaliser une chose, qu'en dehors de Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Frères et sœurs, retenons cela. Dans notre vie, en dehors de Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire.
Ils ont pêché toute la nuit avec leurs propres moyens et sont revenus les mains vides.
Quelles que soient tes capacités, quelles que soient mes capacités, en dehors de Christ, rien. Rien du tout.
Le problème que les disciples avaient et que nous avons aussi aujourd'hui, c'est que des fois les choses ne vont pas comme nous les souhaitons. Hein? Soyons clairs envers nous-mêmes. Des fois les choses ne vont pas comme nous les souhaitons. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons les choses à notre manière, avec notre propre force, malheureusement, comme les disciples ont fait. Nous faisons des fois des choses avec notre propre intelligence, avec notre propre sagesse, sans l'aide du Seigneur. C'est une leçon pour nous tous, frères et sœurs.
Lorsque nous ne savons pas quoi faire, ou quelque chose se passe, ne se passe pas comme nous le souhaitons.
Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons tendance à retrouver nos anciennes habitudes. Nos anciennes habitudes.
Nous revenons à l'ancienne vie pécheresse que nous avions avant.
Avant d'être appelés par le Seigneur et vivre pour lui. Frères et sœurs, faisons attention. Quand les choses ne vont pas comme nous le souhaitons, arrêtons-nous, posons-nous cette question. Où est le problème?
Où est le problème, frères et sœurs? C'est très important. Où est le problème? C'est la barque? C'est la mer? C'est les techniques de pêche? Ou c'est moi-même? Pose-toi deux fois cette question. Nous devons nous poser deux fois cette question.
Mais pour le cas des disciples, le problème ne se situait pas ailleurs. Le problème était eux-mêmes, le disciple.
Et peut-être, dans ton cas, le problème c'est toi-même. Ou c'est moi-même. Peut-être.
Oui, ils sont revenus à leurs anciennes habitudes.
Et nous le voyons aussi ici, beaucoup de chrétiens qui reviennent à leur ancienne habitude. parce que ceci n'a pas marché, là ça n'a pas marché, quelque chose n'a pas marché. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Le problème s'est trouvé où? Avant de revenir à tes anciennes habitudes de païen. Tu t'es déjà posé cette question? Je me suis déjà posé cette question. Oui, les disciples, ils ont travaillé toute la nuit pour rien. Tant d'efforts pour rien. Tant d'efforts pour rien. Ils ont cherché à satisfaire la satisfaction personnelle qui est sans valeur devant Dieu, au lieu de chercher ce qui est de valeur devant Dieu. Son œuvre, son ministère, sa vocation. Et ils ont cherché leur satisfaction personnelle pour être satisfaits parce qu'ils étaient dans les besoins. Nous vivons des fois des moments pareils. Tant d'efforts pour rien. Un sentiment de temps perdu. Un sentiment d'énergie perdue. Ils ont gaspillé leur énergie pour rien toute la nuit. Et des fois, nous aussi, nous travaillons extrêmement dur sur quelque chose. Et à la fin, nous obtenons quoi? Rien du tout. Je me rappelle une fois, on parlait avec ma femme ou mon épouse. Ah non, non, je ne ferai plus ça. J'ai fait ça pour lui. Mais regarde maintenant. Voilà ce qu'il m'a fait. Et alors? Toi, tu regardes à l'homme ou tu regardes Dieu? Si tu regardes à l'homme, tu travailles pour rien. Tant d'efforts pour rien. Regarde à Dieu. Même si cette personne n'est pas reconnaissante. Ce n'est pas grave. Ce ne sont pas tant d'efforts pour rien. Parce que tu as fait quelque chose de valeur devant Dieu. Mais si tu fais tant d'efforts pour toi-même, pour ta satisfaction personnelle, c'est sans valeur. Et c'est ce que les disciples ont fait toute la nuit. Ce n'était pas pour le Seigneur cette pêche-là. Parce que certainement, ils devaient vivre. Ils devaient un peu acheter du riz peut-être pour manger. S'il y en avait à l'époque, donc je pense. Ils étaient dans le besoin. Et tant d'efforts la nuit, pour rien. Frères et sœurs, voici ce que nous lisons dans le livre de Ecclésiaste. Tournons la parole, cherchons la parole de Dieu. Ecclésiaste chapitre 2. Ecclésiaste chapitre 2 et le verset 17 à 22. Oui, cherchez la satisfaction personnelle qui est sans valeur devant Dieu. Rien du tout. Rien et rien. Ecclésiaste chapitre 2, le verset 17 à 22. Nous lisons la parole de Dieu. Ecclésiaste 2, à partir du verset 17. Et j'ai haï la vie, car c'est ce qui se fait sous le soleil m'a déplu. Car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que je fais sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tous les fruits de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que je fais sous le soleil. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est encore là une vanité, un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Rien. Tant d'efforts de fois que nous faisons ce pour rien. L'Ecclésiaste le dit, pour rien. Tu meurs, c'est lui qui va te succéder. Il bouffe tout, sans regret ni chagrin. Sans regret ni chagrin. Parce qu'il n'a pas transpiré pour gagner ce que toi t'as laissé. Toi qui as transpiré, tu sauras gérer parce que c'est le fruit de ton travail. T'as peiné pour avoir ça. Mais c'est lui qui va venir. Oh, sans pitié. Sans pitié. Moi, je me rappelle, entre parenthèses, on va refermer la parenthèse tout de suite. Moi, je me rappelle, nous qui venons de très loin, et des fois, il y a des mois, oh, mon oncle, envoie-moi ça, mon oncle, ah, eh bien, t'envoies. 100 euros, 200 euros, 50 euros. Ben. Mais tu vas voir la façon dont lui va bouffer cet argent-là, sans regret, hein, parce qu'il n'a pas souffert. Alors que toi, quand tu as tes 50 euros, tu fais bien tes calculs. Mais lui, il les bouffe sans calcul. C'est ça. Tant d'efforts pour rien. Et les disciples, ils ont travaillé pour rien. Tant d'efforts pour rien. Parce que c'était la satisfaction personnelle. Sans valeur. Sans valeur. Frères et sœurs, notre objectif doit être de rechercher d'abord le royaume de cieux, le royaume de Dieu et sa justice, et de laisser le Seigneur prendre soin de nos besoins. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste, la Bible le dit, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ce n'était pas le cas avec les disciples. Ce n'était pas le cas avec les disciples. Mais la Bible nous encourage ce matin, frères et sœurs, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et tout le reste vous sera donné. Si vous faites l'inverse, vous cherchez d'abord tout le reste, mais avec sueur, tout ça, ce sont les restes, les autres qui vont les bouffer sans regret, parce que c'est sans valeur, tu n'auras rien. Et c'était le cas de disciples. Proverbe 3, le verset 5 à 6 dit ceci: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, reconnais-le et il aplanira tes sentiers. Frères et sœurs, que la parole de Dieu nous pousse à chercher d'abord ce qui est de valeur devant Dieu et non ce qui est de valeur devant les hommes. Ce qui est de valeur devant les hommes est sans valeur. Alors nous passons à notre deuxième point que nous pouvons évoquer ce matin, frères et sœurs. Le deuxième point est que Christ ressuscité répond aux besoins des disciples. Christ ressuscité répond à leurs besoins. Dans le jardin d'Éden, lors de la création, la Bible dit que l'Éternel parcourait le jardin vers le soir, cherchant la communion avec l'homme. Mais au verset 4 du chapitre 21 de Jean, nous lisons ceci: Jésus se tient sur la rive et cherche le contact avec ses disciples. Voilà. Jardin d'Éden, Dieu cherchait la communion avec les hommes. Rive de la mer de Galilée, Jésus cherche le contact avec ses disciples. Bien qu'invisible, mais le Seigneur a tout observé, toute la nuit. Il a tout vu, il a tout entendu, toute la nuit. Bien qu'eux, ils ne le voyaient pas. Christ ressuscité va à la rencontre de ses disciples découragés. Oui, découragés. Et il apparaît au moment où un autre découragement surgit. Ils étaient découragés parce qu'ils attendaient le Seigneur n'apparaît toujours pas, alors ils sont partis chercher le moyen pour vivre, ils étaient découragés, et il y a un autre découragement qui se rajoute, c'est quoi? Ils ont péché toute la nuit, rien. Double découragement. Un autre découragement surgit, c'est lui de n'avoir rien pris toute la nuit. Alors, au verset 5, nous lisons ceci, Jésus leur dit: enfants, n'avez-vous rien à manger? Parce que le Seigneur savait qu'il n'y avait rien, ils n'ont rien pris. Enfants, n'avez-vous rien à manger? La question ici, c'est pas, nous pouvons comprendre ça dans ce sens-là, mais nous pouvons aussi comprendre cette question de Jésus dans un autre sens, comme ceci. Est-ce que les enfants, vous n'avez pas de poisson, n'est-ce pas? C'est ça. Parce qu'il leur dit, vous n'avez pas rien pris. Donc, enfants, n'avez-vous rien à manger? C'est-à-dire qu'ils n'ont rien. Donc, vous n'avez pas de poisson, n'est-ce pas, les enfants? Vous savez, de vrais pêcheurs, ils étaient très fiers quand vous leur posez. Est-ce que vous avez attrapé quelque chose? Oui, j'ai attrapé tel poisson. Non, les gros poissons là qui coûtent cher. Là. Oui, j'ai attrapé. Ils étaient fiers. Mais posez à cette question à ce pêcheur là qui était des professionnels, que vous n'avez rien attrapé, pour eux c'était pas presque humiliant, mais c'est décevant. Mais ils ont répondu quand même que non, nous avons rien attrapé. Oui, c'est ce que Jésus-Christ voulait qu'il ressente en ce moment-là, cette déception. C'est ce que Jésus voulait, qu'ils arrivent à ce point-là, qu'ils constatent, qu'ils réalisent que rien, cette déception. Malheureusement, ces disciples qui ont suivi Jésus-Christ pendant 3 ans ne les reconnaissent même pas. Ils ne les reconnaissent même pas. Pourquoi? Parce que, travaillant pour eux-mêmes, ils ont perdu même toute la capacité de discernement spirituel. Ils ne reconnaissent ni la personne de Jésus-Christ, ni la voix caractéristique de Jésus-Christ. Parce que nous sommes là, si notre pasteur Albert, il n'est pas là aujourd'hui, mais s'il parle, il se cache là-bas, il parle. Oh, ah bon, il est où? Il est où? Parce qu'on connaît sa voix. Mais eux, rien. Ils reconnaissent ni sa voix, ni même la personne. Oui, il peut y avoir un certain nombre de raisons pour lesquelles les disciples ne l'ont point reconnu. Mais nous ne pouvons pas les évoquer ici parce que la Bible ne nous dit rien. La Bible ne dit rien là-dessus. Mais ce que nous constatons, que Jésus aurait pu blâmer ses disciples pour aller pêcher et ne pas l'attendre comme il leur avait dit. Mais il va leur manifester son grand amour et sa bonté. Il va déverser sur eux sa bonté, sa miséricorde, son amour. Jésus savait qu'ils étaient fatigués. Jésus savait qu'ils étaient affamés. Toute la nuit, ils n'ont rien pris. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il répond immédiatement à leurs besoins. Voilà l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Il répond immédiatement à leurs besoins. Oui, dans leur déception, dans leur découragement, Jésus s'est approché d'eux. Il les entend et il intervient. Voilà ce que le Seigneur fait. Oui, dans notre déception, dans nos découragements, Jésus s'approche toujours de nous. Il est toujours plus près de nous. Il n'est pas loin. Plus près de nous. Il attend et il intervient si nous le voulons. C'est ce que le Seigneur fait comme il a fait avec les disciples. Et au verset 6, il dit aux disciples, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ah, c'est merveilleux. Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez des poissons. Ils savaient où se trouvaient les poissons. Aujourd'hui, on utilise des GPS, de ceci, de cela. Mais le Seigneur, à l'époque, c'était le grand GPS. Il n'y a rien de nouveau ici sur Terre. Hein? Rien de nouveau, rien. Rien. Jésus savait. Et ils ont jeté le filet du côté droit et ils ne pouvaient plus tirer leur filet à cause de la grande quantité de poissons qu'ils ont attrapés. Et lorsque cela s'est produit, la Bible dit que les disciples ont reconnu alors qui était celui qui leur a dit « jetez le filet du côté droit ». Et cela a réveillé leur souvenir. Ils se sont souvenus d'une autre fois où ils avaient pêché toute la nuit et n'avaient rien pris. Mais à la parole de Jésus-Christ, ils avaient jeté le filet et ils avaient attrapé beaucoup de poissons. Vous connaissez l'histoire de la pêche miraculeuse. Dans l'évangile de Luc, chapitre 3, 5, verset 3 à 7. Ils se sont rappelés de cette histoire-là. Mais avant, ils se sont rappelés de rien. Mais quand ils ont vu ce que le Seigneur a fait, ils se sont rappelés. Oui, frères et sœurs, ce miracle que Jésus a accompli devant eux n'a pas seulement béni leur bac rempli de poissons, mais il a également restauré leur espoir et leur confiance en Jésus-Christ. En voyant cela, ils ont repris espoir. Ils ont encore refait confiance au Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, en obéissant à la parole de Dieu, comme le Seigneur leur avait dit, jetez les filets du côté droit. En obéissant à la parole du Seigneur, ils ont attrapé une grande quantité de poissons. L'obéissance à la parole de Dieu apporte des bénédictions. L'obéissance à la parole de Dieu apporte la satisfaction, la vraie satisfaction. Et les disciples ont vécu cela. Parce que c'est cette obéissance qui produit la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la foi sincère en notre Seigneur Jésus-Christ produit toujours l'obéissance à la parole de Dieu. Voilà ce que les disciples ont vécu. C'est pour cela, frères et sœurs, marcher par la foi n'est pas facile. Mais c'est là qu'on trouve la vraie joie, la vraie satisfaction comme les disciples. Comme les disciples. Ils ont obéi à cette parole et le résultat, c'était la satisfaction, la joie. Et ils étaient joyeux. Christ est vivant, mes frères et sœurs, et Christ sait exactement où se trouvent ses brebis. Christ est ressuscité et il vit aujourd'hui et il sait où trouver ses brebis. Rien de ce que nous faisons nous est caché. Il sait comment nous trouver. Il sait comment nous trouver, comme il a trouvé les disciples. Ils savaient qu'ils sont partis à la pêche. Alors qu'il leur avait dit d'attendre. Et le Seigneur s'est trouvé aussi, ma sœur. Le Seigneur sait me trouver aussi. Parce qu'il sait trouver ses brebis. Oui. La fin de ce passage dit que Jésus surprend ses disciples avec un bon petit repas du matin. Un geste qui rappelle sa promesse de toujours fournir ce dont nous avons besoin. Réaliser que ces poissons qu'ils ont trouvés, qui étaient déjà prêts, ce n'était pas les poissons qu'ils ont pêchés. Hein. Ce n'était pas les poissons qu'ils ont pêchés. Parce que quand ils sont arrivés, ils ont trouvé déjà, Jésus a tout préparé. A tout préparé. Il sait pouvoir à tous nos besoins. Oui, frères et sœurs, Pierre a vu le tombeau vide. Il a vu le Seigneur ressuscité avec les autres disciples. Mais malheureusement, c'est lui qui a dit « Je vais pêcher » au lieu d'attendre. Au lieu d'attendre Christ comme il avait promis. Le Seigneur leur avait fait cette promesse. Et comme ça tardait, il a fait autre chose. Ils ont repris leur ancienne vie, sachant très bien que le Seigneur ressuscitait et ressuscitait les morts. Et beaucoup d'enfants de Dieu rétrogrades font marche arrière, parce qu'ils disent que la promesse du Seigneur, de Dieu, tarde à s'accomplir. Alors je reprends mon ancienne vie. Je reprends mes anciennes habitudes. Et le Seigneur condamne cela, frères et sœurs. Rappelons-nous que de nombreux chrétiens aujourd'hui rétrogradent
dans les mêmes circonstances comme les disciples. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui font marche arrière comme les disciples. Ils savent que Jésus est vivant. Nous savons que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ vit éternellement. Mais, des fois, ils s'éloignent de lui. Ils s'éloignent de lui. Dans notre marche avec le Seigneur, est-ce que y a-t-il un découragement? Y a-t-il une déception? Y a-t-il un doute de notre part qui peut vraiment nous empêcher de marcher en nouveauté de vie avec Christ ressuscité? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ce fut le cas des disciples? Frères et sœurs, quelle que soit la déception, quel que soit le découragement, ayons nos yeux fixés sur Jésus-Christ, sur celui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Car c'est lui qui nous a appelés à sa sainte lumière, comme il a appelé les disciples. C'est Christ qui t'a appelé, mon frère, ma sœur. Qu'on ne puisse pas oublier cela. Les disciples ont des fois oublié que Christ les avait appelés à être pécheurs d'hommes. Mais dans ce texte, Christ, dans son amour, leur rappelle cela. Que votre place, votre vie ne se trouve pas dans une barque. Et ma sœur, mon frère, s'il y a un découragement, une déception comme le disciple, le Seigneur veut te dire que ta vie ne se trouve pas là où tu es ou où. Je ne sais pas. Mais lui, il sait te trouver. Il sait là où tu es maintenant. Comme il savait là où les disciples se trouvaient. Rien ne lui est caché. Oui. Ayons nos yeux fixés vers Jésus-Christ qui est le chef et le consommateur de notre foi. Je vais finir par ce verset biblique dans Romains chapitre 6, le verset 4. Romains chapitre 6, le verset 4, qui nous dit ceci. Romains 6, verset 4. Car nous avons été ensevelis avec Christ en sa mort, afin que Christ ait ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Que le Seigneur bénisse sa parole.